le général Bonaparte, pour l'éclat, le luxe, le faste, la richesse, misérables ambitions des âmes communes. Vous imaginez un peu ce qu'ils ont dû se dire l'un à l'autre lorsque le discours a été fini, qu'ils se sont retrouvés le soir dans quelques salons, le coup de coude qu'ils se sont donné, et Bonaparte, écoutant, se rappelant ce que Talleyrand avait dit publiquement, cette accumulation de bévues conscientes et de facéties mensongères, il lui dit, c'est pas mal, c'est exactement ce qu'il faut dire pour le public. Et en particulier, Talleyrand lui dit, je sais très bien que vous avez ramené de l'argent, environ 12 millions, vous savez, en monnaie d'aujourd'hui, n'en faites pas aux sondations, que les gens ne sachent pas ce que vous avez. C'est pourquoi vous avez vu Bonaparte dépenser 1 200 000 francs pour sa maison d'Ajaccio, parce que c'est pas à Paris, se contenter d'acheter l'hôtel de la rue Chantraine, il a payé 52 000 francs, mon Dieu, c'était possible, et c'est encore en secret, toujours sur le conseiller de Talleyrand, qui va acheter pour 1 200 000 francs de biens nationaux belges. Ça ne se voit pas. Talleyrand lui a donné un autre truc, si je puis dire, le même qu'il avait employé personnellement. Avant d'arriver ministre des Relations extérieures, il s'était fait nommer à l'Institut. On sait trop pourquoi. En fait, Talleyrand avait une grande culture, ce qui n'était pas le cas de Bonaparte. Mais comme Carnot n'est plus de membre de l'Institut, voilà que Bonaparte se présente à sa place. Naturellement, il est élu. Il se fait inscrire dans la section des sciences. Son ministre, un peu plus tard, qui s'appelle Chaptal, qui était un chimiste et qui était aussi un savant sérieux, Chaptal dira, les connaissances mathématiques de Bonaparte ne dépassaient pas le Bezout. Bezout, c'était le nom du manuel scolaire. Il ne savait pas grand-chose. Mais enfin, il avait le don de s'instruire en écoutant, et devant les gens de l'Institut, il était extrêmement humble, il était gentil, il prononçait des paroles nobles et humanitaires, comme celle-ci par exemple, « Les véritables conquêtes sont celles que l'on fait sur l'ignorance. » Pourquoi est-ce qu'il tient à l'Institut? Mais il y a deux ou trois raisons, si vous voulez. Première raison, il faut qu'il fasse le civil maintenant, le civil, qui n'effraie pas les civils du gouvernement, qui ont un peu peur de ce militaire. Deuxième raison, l'Institut est plein de ce qu'il va appeler lui-même les idéologues. L'idéologue, c'est la suite, la série, la queue, si vous voulez, des encyclopédistes du XVIIIe siècle. C'est rempli de francs-maçons. Il appartient lui-même à la maçonnerie. Et entrer à l'Institut, c'est avoir certainement l'appui d'un corps important, spirituellement important, en France. Troisièmement, et encore plus important, Bonaparte sait parfaitement qu'il y a d'autres généraux comme lui qui pensent à essayer de s'emparer de la France. Il sait bien que Kléber a des arrière-pensées, nous allons les voir. Il sait qu'Augereau en a eu. Il a très peur de Moreau, parce que Moreau est un général à prestige. Et il se dit, si je suis moi, membre de l'Institut, je me crée une supériorité immédiate sur ces autres qui ne sont que des traîneurs de sabres. Moi, en effet, je suis un sabre étincelant, mais en plus, je suis un savant puisqu'on m'a reçu à l'Institut. Comprenez, il y a une espèce de place à prendre. Il y a des tas de candidats là, qui sont prêts à s'emparer de cette place, c'est-à-dire le gouvernement de la France par un sabre. Et lui, Bonaparte, veut s'assurer cette place personnellement et il cherche une rue. Cette rue, c'est celle-ci. Le gouvernement, qui se méfie de lui, dès le 26 octobre, notez bien la date, puisqu'en octobre il est encore en Italie, il ne va rentrer que le 5 décembre, le 26 octobre, le gouvernement avait déjà désigné Bonaparte comme chef de l'armée d'Angleterre. Bon, c'est entendu, l'Autriche maintenant a signé la paix, il ne reste plus qu'un ennemi de l'Angleterre. L'armée d'Angleterre, c'est autre chose qu'une armée contre l'Autriche. Il faut franchir la Manche. Et j'ai bien l'impression que quand les gouvernants ont décidé qu'il serait chef de l'armée d'Angleterre, c'est un peu pour le mettre dans une situation embarrassante. Il va s'embourber. Jamais il n'osera faire la traversée de la Manche. Alors on va le voir réunir des hommes sur la côte de Boulogne, là. Les mois vont passer, jamais il ne fera son opération, ça va le déconsidérer. Trop malin, Bonaparte les a vus venir. Il ne veut pas se constituer directement en opposition avec le gouvernement, c'est un soldat loyaliste, n'est-ce pas, bien sûr. Alors il va en inspection sur la côte de la Manche, et le 23, je m'excuse de souligner, hein, le 23 février 98, il va remettre son rapport. Il va dire, j'ai étudié la situation militaire, je crois qu'il n'y a vraiment pas moyen de franchir la Manche pour l'instant, et je propose au gouvernement une manœuvre tournante contre l'Angleterre. On ne va pas l'attaquer de front, mais on va l'attaquer à travers l'Égypte. Avouez que comme manœuvre tournante, c'est assez long, en effet. Cette idée d'Égypte, il y a un certain temps qu'elle est dans sa tête. Pensez que le 10 février 97 déjà, dans Cône sur la rive adriatique, il avait dit, en 24 heures, on va d'ici en Macédoine. Tiens, il pensait à Macédoine, Alexandre. Le 27 juillet, il avait parlé cette fois des îles ioniennes au gouvernement. Ces îles sont plus importantes pour nous que toute l'Italie réunie. Et au mois d'août 97, il faut nous emparer de l'Égypte. Ah, il faut nous emparer de l'Égypte. Quelle est donc son idée? Je sais bien que Leibniz, sous Louis XIV, avait déjà fait une proposition pareille. Il avait dit que la possession de l'Égypte pour la France serait d'un grand intérêt économique. Talleyrand, dans une lettre du 23 septembre 1997, Talleyrand, ministre des Relations extérieures, dit à Bonaparte, oui, vos idées sur l'Égypte sont intéressantes, nous sommes en train de perdre nos colonies des Antilles, On remplacerait comme colonie, point de vue commercial, on remplacerait ces Antilles perdues que les Anglais nous ont prises, on les remplacerait par l'Égypte. C'est pas ça l'idée de Bonaparte, il faut bien comprendre. Je vais vous dire là une chose à laquelle je tiens beaucoup, qui paraît scandaleuse et révolutionnaire, mais qui est la vérité. C'est un apatride, Bonaparte. C'est un homme qui est sorti de Corse, qui a détesté longtemps la France, qui ne s'intéresse pas à la France. Il a été reflué sur la France parce qu'il n'a pas réussi son coup, vous savez, le faux départ en Corse. Il a francisé son nom parce que c'est sa femme qui lui a dit, Joséphine lui a dit, Bonaparte, c'est pas bien, il faut mettre Bonaparte. Alors à partir de l'expédition d'Italie, il a signé Bonaparte, ce qui fait plus français. Mais il n'est absolument pas français dans le sang, dans les moelles. La France est un terrain de chasse, simplement pour lui. Alors il se dit, comme il n'y a pas moyen pour l'instant de faire une opération sur Paris, comme il ne peut même pas se faire élire directeur parce qu'il faut avoir 40 ans pour être directeur et qu'il est bien loin d'avoir ses 40 ans, alors il va reprendre une idée qu'il avait eue, vous vous le rappelez peut-être, en 95, lorsque Constantinople, enfin le sultan, avait demandé des généraux instructeurs français. Je vous ai dit qu'à quel point ça l'avait intéressé, parce qu'il s'était dit, là-bas, Constantinople, l'Orient, Eldorado, je vais pouvoir faire une fortune énorme à la Talleyrand. Mais maintenant, il est dans une situation bien différente et bien supérieure. Autrefois, c'est pas loin, il y a 3 ans, en 95, il aurait été simplement un général instructeur envoyé auprès des Turcs. Maintenant, il est général d'armée. Alors, il peut se diriger vers l'Orient à la tête d'une troupe. Il peut être un conquérant. Ubi, bene, ibi, patria, vous savez la formule. Là où je suis bien, là où j'ai de l'argent, là c'est ma patrie. Eh bien, Bonaparte, en 98, est quelqu'un qui se dit, du côté de l'Égypte, il y a une énorme fortune à faire, je vais partir, je vais plaquer la France, ce qui m'intéresse, c'est la destinée d'Alexandre, c'est la conquête de l'Orient. Il racontera plus tard, 99, l'année suivante, qu'il a été, pour ainsi dire, déporté, oui, déporté, par les directeurs qui ne voulaient pas de lui. En fait, il a beaucoup insisté, terriblement insisté, pour l'avoir, cette expédition d'Égypte. Et Talleyrand va l'appuyer dans des conditions mystérieuses. Vous allez voir pourquoi j'insistais sur le 23 février tout à l'heure. Talleyrand, oui, lui dit, vous avez raison, c'est une bonne idée. Mais voici qu'au début de l'année 98, Talleyrand écrit à sa maîtresse, Madame Grant, une Anglaise qui va d'ailleurs bientôt épouser, il lui dit, je pousse, écoutez bien ça, hein, je pousse beaucoup Bonaparte à l'expédition d'Égypte pour faire plaisir à nos amis anglais. Comment ? Pour faire plaisir à nos amis anglais, il l'expédie là-bas ? Oui, parce que les Anglais avaient parfaitement peur, ils avaient peur, d'une tentative à travers la Manche. Ils commençaient déjà à faire des défenses côtières très sérieuses. Et il se dit, si Talleyrand a la possibilité d'orienter ailleurs ce Bonaparte, ce serait excellent pour nous. Mais il y a bien pire. Vous vous rappelez, hein, 23 février, c'est le 23 février que Bonaparte a remis son rapport au directeur pour leur dire, je propose une expédition d'Égypte. Le 23 février. Le 22 février, la veille, Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, a convoqué le chargé d'affaires de Prusse. Et ce 22 février, il lui a révélé ce qu'allait contenir le rapport combiné entre lui et Bonaparte. Il a révélé à ce Prussien pourquoi. Qu'on allait partir, qu'une expédition allait partir, une expédition française allait partir de Toulon sur l'Égypte. Et il a ajouté, je sais que les Anglais n'interviendront pas, que la flotte anglaise laissera passer Bonaparte. C'est vrai, elle le laissera passer, mais vous savez tout de même qu'on y va perdre toute la flotte française de la Méditerranée et que les Anglais l'ont guettée, quand ils l'ont trouvée dans le port d'Aboukir, ils l'ont détruite. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça donnerait à penser, hein, je ne vais pas au-delà, que Talleyrand a reçu de l'argent des Anglais pour, premièrement, écarter Bonaparte d'une agression directe contre l'Angleterre, et deuxièmement, pour qu'une puissante flotte française de Méditerranée s'engage dans des parages dangereux où la flotte anglaise pourra la détruire. Toujours est-il qu'il y tient absolument Bonaparte, il a même dit au directeur comment il fallait faire pour financer l'opération, il leur a dit, ben, il y a la Suisse à côté. La Suisse, il y a un gros trésor en Suisse, à Berne en particulier, il y a 30 millions disponibles. On enverra le général Brune volera les 30 millions des Suisses, ça nous suffira pour nos expéditions. Et voilà parti. Il arrive le 1er juillet 98, le voilà qui débarque. Dès le 20 juillet, il entre en contact avec les Mamelouks. Qu'est-ce que les Mamelouks ? C'était une milice composée d'anciens esclaves, mais qui n'étaient plus esclaves du tout, qui étaient des Turcs et des Égyptiens. En principe, c'était des gens à peu près révoltés contre le sultan, et qui mettaient l'Égypte en coupe réglée. Ils avaient des soldats, ils étaient eux-mêmes soldats, et ils se sont groupés devant le Caire, près des pyramides. Bonaparte n'en fait qu'une bouchée, c'était facile, il avait des tas de canons avec lui et les Mamelouks n'en avaient pas. Alors les Mamelouks vont faire des charges de cavalerie et encore des charges de cavalerie contre les canons, ils vont se faire naturellement nettoyer, enfin tailler en pièces, et comme on s'est aperçu sur les cadavres qui étaient tombés dans les premiers rangs, qu'ils avaient presque tous de l'or dans leur ceinture, alors pendant 48 heures, les soldats français de l'expédition d'Égypte vont tordre des baïonnettes pour les rendre un peu crochus et vont procéder dans le Nil où on les a poussés à des récupérations de cadavres pour attraper l'or qui est dans les ceintures. Maintenant, on arrive au Caire, ça y est, il n'y a plus de défense puisque les Mamelouks sont écrasés et on va se mettre à pratiquer la coupe réglée de l'Égypte, ce que faisaient les Mamelouks. Bonaparte va s'écrier « Je viens vous délivrer des Mamelouks » comme il avait dit aux Italiens « Je viens vous délivrer des Autrichiens » et il vient simplement se substituer aux Mamelouks. On va faire une opération de pompage. Cette opération de pompage va se doubler d'une opération théologique qui est extrêmement intéressante. Il faut que je vous en parle un petit peu longuement, enfin 5 minutes, parce que pour bien comprendre ce qui va se passer en France avec le Concordat, il faut savoir ce que Bonaparte avait fait avec les curés de là-bas, c'est-à-dire les Simans et les Mouftis. Le Moniteur, journal officiel, du 27 novembre 1998, publiera ceci. Relation de l'entrevue du général Bonaparte, général en chef de l'armée d'Orient, avec plusieurs Mouftis et Imams dans l'intérieur de la grande pyramide dite de Khéops. Bonaparte parle. Le divin Coran fait les délices de mon esprit.